L'alimentation, 3000 litres d'eau par jour et par personne. Renaud Hermen, co-directeur de la Water Family, du flocon à la vague.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Gorko Yersoun, je travaille pour l'association du flocon à la vague. Malheureusement, Renaud Hermen, qui est co-directeur de l'association et qui devait faire la conférence, n'a pas pu venir. Donc je vais essayer de le remplacer, je l'ai appris un petit peu au dernier moment, mais bon, on va essayer de s'adapter quand même un petit peu. Donc on va parler un petit peu d'eau, de l'eau, hein, du flocon à la vague, de la montagne jusqu'à la mer, et puis surtout on finira par l'alimentation. On verra, c'est un petit peu le cœur de notre message, le cœur de nos actions. Alors, l'association La Water Family, donc l'année prochaine on fête 10 ans, c'est les 10 ans de l'association. Dans les messages, voilà, on essaie d'expérimenter un nouveau type de société, etc. Bon, c'est surtout de l'éducation à l'environnement ce qu'on fait. On intervient principalement dans les écoles auprès des enfants pour faire passer nos messages d'éducation à l'environnement autour de l'eau, etc. Le siège aujourd'hui est à Biarritz. Donc voilà, j'ai mes collègues qui sont derrière au fond, on travaille tous au bureau à Biarritz. Après, vous avez un peu une carte de toutes nos antennes, de toutes nos actions. Donc on a pas mal d'actions sur Pau, Tarbes, Toulouse, les Landes, Bordeaux, les Sables d'Olonne avec une équipe qui a fait le Tour de France à la voile sous nos couleurs. Une grosse antenne en Bretagne entre Brest et le golfe du Morbihan. Une petite antenne qui est en train de se développer en Ile-de-France sur Paris. Toute l'antenne Alpes avec Annecy-Chamonix et Corse et le Sud-Est. Voilà. Ça c'est un petit peu là partout où on intervient, partout où on passe notre message. Bon, ça l'organigramme, on va passer, on avance. Donc comment on est organisé ? On est organisé en trois pôles. On a le pôle Water Expertise, ça c'est un petit peu l'historique de l'association. L'association elle est née voilà, d'un mouvement sportif qui partait du flocon à la vague. Bah, ça on le continue un petit peu, on le continue dans nos antennes, on le continue ici au Pays Basque aussi. Voilà, c'est le sport au service de la protection de l'eau. On organise des séminaires, etc. Vous pourrez avoir plus de détails. On a une partie Water Expertise, on ne fait pas seulement de l'éducation environnement, on va accompagner beaucoup d'événements. À plus d'éco-responsabilité, on a voilà, plein d'autres outils plutôt à destination des entreprises ou des collectivités. Et enfin, bah, la partie qui nous intéresse surtout, la Water Academy, c'est ma partie, c'est là où je travaille, dans la création des outils pédagogiques de l'association. Faire des jeux, sans arrêt des jeux, des nouveaux jeux pour essayer de sensibiliser les enfants à différentes thématiques. Et puis notre programme pédagogique, on va essayer de passer un petit peu en revue tous ensemble, je ne vais pas tout faire. Sinon on y est pour 4 heures. Mais voilà. Alors l'eau, si on doit protéger l'eau, c'est d'abord pour nous, parce qu'on est tous faits d'eau. Alors rapidement, pourcentage d'eau dans le corps humain? Quelqu'un? On va essayer de faire ça un peu interactif.
80.
Hein,
20?
80? Allez, on va être sur du 60. Un adulte, c'est 65% d'eau dans son corps. Voilà. Notre sang, c'est 90% d'eau. Le cerveau, c'est les 3/4 de notre cerveau, c'est de l'eau. Même dans nos muscles, on a de l'eau absolument partout. Maintenant, à quoi sert cette eau dans notre corps? 4 grands rôles. Le premier, c'est de transporter les sels minéraux et les oligo-éléments. L'eau, c'est rempli de sels minéraux, d'oligo-éléments. Ben, ça, c'est vraiment ce qui est présent dans l'eau et qui est essentiel au fonctionnement de notre corps. Ensuite, il sert à transporter et éliminer tous les déchets de notre corps, de différentes façons. Ça sert à maintenir la température constante à l'intérieur de notre corps. Et ça permet aussi de faire toutes les réactions chimiques qu'il y a dans notre corps. Alors du coup, bah, on a de l'eau, ok. Combien de litres d'eau il faudrait boire par jour? Voilà, un litre et demi, entre 1 litre et 2 litres. Donc nous, bah, on est plutôt pour l'eau du robinet. Ça permet d'éviter d'avoir du plastique, ça permet d'éviter pas mal de choses. Plutôt l'eau du robinet. Et un autre moyen d'apporter de l'eau dans notre corps, bah, c'est de manger des fruits et légumes. Alors l'été c'est facile, il y a plein de fruits et légumes. L'hiver c'est un petit peu plus difficile, alors on peut aller chercher dans tout ce qui va être légumes racines, qui sont très riches en eau, les navets, les radis, tout ce qu'on adore tous manger. Voilà, ces légumes de saison en hiver, bah, c'est des choses qui sont plutôt gorgées d'eau, qui nous apportent quand même beaucoup d'eau. Ok. Alors, quelques petits conseils rapides, allez, on se les fait. Au réveil, il faudrait boire 2 verres d'eau. Il y en a qui boivent de l'eau le matin, justement. Voilà. Faut se dire qu'en fait, on vient de passer la plus longue période de la journée sans boire. On vient de passer entre 6 et 9 heures, 12 heures, pour les plus. Ceux qui ont pour la grasse mat. On vient de passer entre 6 et 12 heures sans boire. Et la première chose dont notre corps a besoin, au réveil, bah, ce serait de boire. Alors, ceux qui aiment pas boire, moi quand j'étais petit, j'aimais pas boire. J'aime bien dire aux enfants, commencez petit à petit, un demi-verre, puis un verre, et puis pourquoi pas deux verres. Et moi aujourd'hui, je peux pas me passer, je me lève le matin, il y en a, c'est le café, moi, si j'ai pas mes deux verres d'eau, je peux pas être là. Ensuite, il faudrait boire avant les repas, après les repas, un verre, deux verres, ça permet d'avoir une bonne digestion. Voilà. C'est un quart d'heure avant, un quart d'heure après. À chaque pause, dès qu'on a une pause, ça c'est plutôt pour les enfants, dès qu'ils ont un temps libre, dès qu'ils ont la récréation, on leur dit d'aller boire un petit peu d'eau. Et puis, avant de dormir aussi, si vous rentrez de soirée, pensez à vous hydrater. Ça aide toujours aussi. Alors, le chiffre important quand on fait du sport, c'est que si on a moins 4% d'eau dans notre corps, on peut perdre jusqu'à 20% de nos capacités physiques, mais aussi intellectuelles. C'est valable aussi en classe. Donc, boire peu, mais boire souvent, c'est un peu la clé de la performance. Voilà, c'était une petite... je vais passer un petit peu plus vite. Hein, voilà, l'eau dans le corps, le grand cycle de l'eau, tout ça, c'est vraiment ce que je vous fais là. C'est ce qu'on explique aux enfants dans les écoles. C'est surtout montrer l'importance de l'eau, ensuite voir un petit peu les problématiques autour de l'eau, et ensuite on verra vraiment les solutions, en tout cas les solutions qu'on apporte pour protéger l'eau. Donc une fois qu'on a vu l'eau dans le corps, je vous propose de voir un petit peu l'eau dans la nature. L'eau, c'est la source de la vie. On dit souvent que c'est une ressource, mais c'est plutôt c'est la source de la vie. La vie est apparue dans l'eau il y a à peu près 3,5 milliards d'années sous forme de micro-organismes. Okay. L'évolution a fait qu'il y a eu une grande diversité de formes très très différentes. On peut avoir de la vie sans air, certains microbes, certaines bactéries, pas besoin d'air, elles n'ont pas besoin d'oxygène en tout cas. Certains poissons qui vivent dans les profondeurs, ils n'ont absolument pas besoin de lumière. Vous, si on vous met dans un placard pendant 2 semaines, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, on ne peut pas avoir de vie sans eau. L'eau, c'est fondamental à la vie. On dit même que c'est la première molécule du vivant. De l'eau, ensuite, il y en a un petit peu partout. Plus il y a d'eau, plus généralement l'écosystème est développé. Il y a plein d'autres facteurs, mais ça joue pour un très très grand rôle. Et à partir du moment, même dans un désert, on trouve un peu de vie, ça veut dire qu'il y a de l'eau. L'arbre, je vais passer, on a un programme pédagogique autour de l'arbre. D'ailleurs, si vous êtes là au Positive Action Festival, la conférence portera plutôt sur les arbres la semaine prochaine. C'est une pépinière qui est dans les Landes, qui s'appelle Plan Fort, et chaque enfant qu'on sensibilise repart avec un petit arbre. Donc c'est un petit cadeau assez sympa, un peu win-win-win. C'est gagnant pour nous parce que ça fait un cadeau aux enfants, c'est gagnant pour la pépinière parce que ça permet d'être connu, et puis c'est gagnant pour la planète parce que on plante plus d'arbres et c'est tant mieux. Donc l'arbre, c'est bon, je passe. Voilà, ça c'est un exemple qui est très marquant, je ne sais pas si vous le connaissez, à quel point l'eau c'est la vie. Hein. C'est le désert d'Atacama au Chili. C'est un des déserts les plus arides de la planète. Il pleut, on dit, une fois tous les 7 ans en gros. Et alors quand il pleut, c'est quand il y a El Niño qui arrive, il y a une bonne grosse pluie qui dure 2 bonnes semaines. Et en une semaine, 2-3 semaines, le désert passe d'une terre sèche où il n'y a que des cailloux et du sable à une vallée remplie d'herbes et de fleurs, où la vie s'épanouit, où les abeilles, les oiseaux débarquent, et c'est la fête dans le désert pendant à peu près un mois, et puis ensuite, tout redisparaît pour une dizaine d'années. Voilà, c'est montrer que l'eau, c'est capable de façonner un désert, c'est capable de lui rendre la vie. Bon, le cycle de l'eau, tout le monde le connaît ? À peu près ? L'eau s'évapore, va monter au ciel, retourner sur les montagnes, il va pleuvoir, neiger, etc. Tout ça, ça va ruisseler, retourner à la mer. L'eau, elle est capable de s'infiltrer sous la terre, dans les nappes souterraines. C'est intéressant aussi, mais on va dire un petit peu plus tard. Et il y a aussi un rôle très très important des arbres. On l'oublie souvent, mais ça, on en discutera peut-être plus la semaine prochaine, ceux qui veulent venir. C'est que les arbres, l'évapotranspiration a une grosse grosse part dans le cycle de l'eau. S'il n'y avait pas d'arbres, s'il n'y avait pas la forêt landaise, il y aurait au bout de 600 km, ce serait un désert. En gros, les arbres réalimentent en permanence via l'évapotranspiration le cycle de l'eau. Ok. Oui, mais voilà, on va commencer doucement à rentrer un petit peu dans les problèmes. L'eau, c'est quelque chose de rare sur notre planète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma. Mais en gros, voilà, si on enlevait toute l'eau de nos océans, en gros, ça rentrerait dans une sphère de cette taille-là. Ça, c'est les 97% de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée, l'eau des océans. Nous, on n'utilise pas directement. Nous, ce qu'on utilise, c'est l'eau douce. 3% de l'eau sur Terre. Okay. Le problème, c'est que l'eau douce, alors où est-ce qu'on en retrouve ? On en retrouve dans les glaciers, on en retrouve sous la Terre, on en retrouve dans les lacs, les rivières, on en retrouve dans nos maisons. mais sur la totalité d'eau douce, il n'y a qu'un seul pourcent d'eau douce disponible. Il y en a 2% en gros qui sont cachés soit trop profond dans la terre, on n'y a pas accès, soit dans les glaciers au pôle nord ou au pôle sud. Donc il reste qu'un seul pourcent d'eau douce disponible. C'est même pas l'eau potable, hein, pardon. L'eau potable, c'est 0,0001% de l'eau sur Terre. C'est l'eau, en gros, filtrée et traitée par l'homme. Donc c'est absolument rien. En fait, c'est la quatrième goutte, elle est tellement petite qu'on la voit pas. Alors le problème, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il en est aussi de plus en plus nombreux. En 1900, combien il y avait d'habitants en France? Enfin, en Normande, pardon. Combien on était en 1900? D'humains. Combien ils étaient à l'époque? Ils étaient 1,5 milliard, à peu près. Et aujourd'hui? 7 milliards et demi même. Donc en 117 ans, on a pris 6 milliards d'humains. Ce qui nous amène à la partie un petit peu autour de l'eau qui est devenue une ressource menacée. Donc ça, c'est un schéma qu'on a, bon, je l'ai réinterprété, mais ça vient du GIEC. En gros, on a essayé de représenter le stress hydrique. Le stress hydrique, c'est les problèmes qui sont liés à l'eau. Il y a deux types de problèmes qui sont liés à l'eau. C'est soit le manque d'eau, soit quand il y a trop d'eau. Alors en gros, je sais pas si je l'ai après, voilà. C'est, en gros, si on reprend un petit peu les problèmes, bah, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des problèmes d'eau. Par exemple, vous avez la Californie, hein, aux États-Unis, qui est un pays très très riche. Bah, par manque d'eau, ils sont frappés très, très régulièrement par des terribles sécheresses, par des lourds incendies. On va avoir tout ce qui va être ouragan qui pose problème au niveau de la Caraïbe. Chez nous, en France, bah, on est plutôt en orange. En gros, c'est plutôt lié aux inondations, même si en France, il y a beaucoup de sécheresses. Là, on vient de passer une période quand même relativement sèche. Hein, il n'a pas plu depuis assez longtemps. Donc les inondations, ça fait beaucoup de dégâts, ça pose beaucoup de problèmes. Là ici, on a eu l'exemple aussi, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en avril, au Cap, en Afrique du Sud, il y a eu une terrible période de sécheresse et ils se demandaient si en été, ils n'allaient pas devoir couper les vannes et devoir déporter pratiquement 4 millions de personnes. Voilà. En gros, c'est comprendre un petit peu que l'eau, il y a énormément de problèmes. Là ici, pareil, on a mis un exemple de la Syrie. La Syrie, il faut savoir qu'en 2010, ils ont connu la pire sécheresse de leur histoire. Alors il n'y a pas que... Il y a eu plein de facteurs, mais en tout cas, l'eau fait partie des facteurs qui ont mené à la guerre civile qu'il y a en Syrie. Et enfin, toute la partie asiatique, bah, c'est pareil, ils ont beaucoup de problèmes de typhon. Donc l'eau, quand il y en a trop, bah, ça fait des inondations. Les inondations, ça fait énormément de dégâts. Pour l'exemple de Paris, là, en juin 2016, il y avait eu des grosses inondations. Il y en a eu en début d'année, là, en janvier 2018. À chaque fois, c'est plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Qui c'est qui paye? C'est nous. Voilà. De l'autre côté, sécheresse, bah, ça mène à un manque d'eau, ça mène à des déplacements de population et à tous les problèmes qui peuvent être associés à la migration, au conflit, et ça peut même dégénérer en guerre. Il y avait une étude, alors c'est pas la partie très très rigolote, mais après vous inquiétez pas, il y a des solutions. Il y a une étude de la NASA qui était sortie en 2010 qui montrait en fait que pratiquement toutes les grandes civilisations qui avaient vécu sur notre planète s'étaient effondrées, notamment à cause de problèmes liés à l'eau. C'est toujours un facteur, c'est toujours multifactoriel, mais l'eau en tout cas rentre dans ces facteurs. Donc en plus d'être mal répartie, l'eau, bah, elle est de plus en plus perturbée par le changement climatique. Donc ça, si on regarde un petit peu l'évolution des températures depuis 2000 ans, bah, on voit que c'était plutôt ok, alors ça varie. Hein. Là ici on a eu une petite période de réchauffement au Moyen-Âge, juste après c'est le petit âge glaciaire. Donc là, les glaciers, par exemple des Alpes, sont descendus quand même relativement bas. Ils ne sont pas allés jusqu'à Lyon, mais ils sont redescendus quand même très 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 bas. Et puis là, depuis l'époque industrielle, ça monte en flèche. Donc le changement climatique va vraiment perturber l'eau. Plus d'un degré de réchauffement de la planète, en gros, ça veut dire plus 7% d'évaporation en plus. Et donc ça fait plus de stress hydrique. En fait, le cycle de l'eau s'emballe. Ça va de plus en plus vite, et donc ça veut dire plus de sécheresse, ou en tout cas qui dure plus longtemps, plus de cyclones qui sont de plus en plus forts, etc., etc. Voilà, alors ensuite l'eau, bah, dans notre civilisation, c'est la ressource naturelle la plus importante, hein. Elle est essentielle au développement des sociétés humaines, pour notre santé, pour le sphère du sport, pour fabriquer notre eau potable, on a besoin d'eau, pour notre agriculture, on a besoin d'eau, même pour fabriquer notre énergie. Hein. En France, C'est, il y a 15% de l'électricité qui est fabriquée par l'hydroélectricité, les barrages, et 70% qui est fabriquée par le nucléaire. Sauf que l'énergie nucléaire ne fonctionne pas sans eau. L'industrie peut absolument tout faire, faire une table, faire nos vêtements, il faudra de l'eau, ça on le verra un petit peu plus tard. Et évidemment, le tourisme, ce qui était avant un petit peu entendu parler, le tourisme c'est lié à l'eau, que ce soit en montagne pour le ski, ou chez nous pour aller à la plage, voilà, par exemple. Alors quelques chiffres, 40% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes. Il y avait un autre chiffre qui était intéressant, c'est 80% des emplois dans le monde dépendent de l'eau directement. Surtout les emplois du monde dépendent de l'eau. Mais 80% des emplois du monde dépendent vraiment directement de l'eau. Donc l'eau, c'est au cœur de tout. Oui, mais voilà, donc l'eau, elle est rare. Et puis elle est mal répartie. Il y a des gros problèmes de changement climatique. Et en plus, on la pollue. Donc on la pollue pas qu'en Indonésie, même si là-bas, effectivement, il y a eu des études qui ont montré qu'en Asie, il y avait énormément de pollution qui venait. En gros, les plus gros fleuves qui déversaient de plastique venaient plutôt d'Asie. Chez nous aussi, la décharge de Borde, pour ceux qui connaissent, sur le Gave de Pau, ça rejetait énormément de déchets. Alors en gros, pour essayer de comprendre un peu les pollutions, nous on aime bien les classer en trois familles pour bien les identifier. On va voir tout ce qui est macro-déchets, bon, c'est le plastique. Le gros problème du plastique, c'est que ça peut intégrer la chaîne alimentaire et du coup avoir de graves conséquences sur notre santé. Deuxième type de pollution, c'est tout ce qui va être microbiologique. C'est la première cause de mortalité au monde. Principalement, les gens sur Terre meurent de non-accès à l'eau à cause de microbes et des bactéries. C'est pas des super microbes super rares, hein. C'est des maladies très banales, comme la diarrhée ou l'otite, sauf que si on les soigne pas bien, ces maladies-là peuvent devenir mortelles. Et enfin, dernier type de pollution, probablement le moins connu, c'était toujours en rapport avec la conférence juste avant, c'est tout ce qui va être pollution chimique. Des choses qu'on connaît très très mal, les métaux lourds, les pesticides, les médicaments. Il y en a qui sont très toxiques, à une seule goutte dans une rivière, ça vous flingue tous les poissons. Il y en a qui sont pas du tout toxiques, mais qui peuvent se mélanger entre eux pour donner des choses plus toxiques. C'est tout ce qui va être effet cocktail. Et le gros problème aussi, c'est que ça rentre dans la chaîne alimentaire et que ça persiste. C'est tout ce qui va être bioaccumulation, bioamplification. Ok. Ça va, je vous ai pas... Maintenant, on voit les solutions, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein, plein de choses qu'on peut aborder facilement à la maison. Donc, on va commencer par le petit cycle de l'eau domestique. Alors, à la maison, nous aussi, nous, les humains, on a notre propre cycle de l'eau à nous. Donc, ça vient généralement des rivières. Vous habitez tous par ici, là, Biarritz, Anglet, Bayonne, à peu près. Vous savez d'où elle vient, l'eau que vous buvez? Au robinet? C'est de l'eau de source? Non, elle coule à côté, la source, elle est pas loin. L'eau du Pays Basque? À Bayonne, l'eau que vous buvez, à Bayonne, Anglet, Biarritz, sur une trentaine de communes, elle vient de la Nive. Qui passe juste là. Voilà, donc, vous avez tous vu la couleur de la Nive? Bon, vous inquiétez pas. Du coup, de ça, l'eau des rivières, généralement, on dit qu'elle est pas potable. Aujourd'hui, des rivières qui sont, on va dire, pristines, c'est un mot anglais, des eaux pures, il n'en existe plus beaucoup. Donc, tout ça, on va devoir les nettoyer dans des stations de potabilisation, des unités de potabilisation. On va rendre l'eau potable, on va enlever une grande majorité des produits chimiques, surtout des microbes. Et tout ça, on va ensuite l'envoyer dans nos maisons. Donc, dans nos maisons, on va utiliser l'eau, on va se doucher, on va se savonner, on va faire pipi, on va faire caca, on va aller aux toilettes, on va... Toute cette eau, on va l'utiliser et elle va ressortir. Puis elle va aller à la station d'épuration qui traite l'eau afin de pouvoir la rendre dans la nature. Donc moi, j'aime bien demander aux enfants, à votre avis, c'est laquelle qui nettoie le mieux l'eau? Est-ce que c'est la station d'épuration ou la station de potabilisation? Alors potabilisation, évidemment, puisque l'eau qui sort, c'est de l'eau potable. L'eau qui sort d'une station d'épuration, c'est pas de l'eau potable. C'était un petit peu aussi, j'ai vu que ça en est discuté un petit peu pas mal. Les stations d'épuration, aujourd'hui, elles traitent absolument pas tout ce qui est produits chimiques. Les produits chimiques passent totalement au travers. Soit ils finissent dans les rivières, dans la mer, soit ils finissent dans des boues. Des boues qui vont ensuite être réutilisées pour faire de l'agriculture. Pas de l'agriculture biologique. Voilà, petit topo sur l'eau à la maison. Alors à la maison, en gros, combien de litres d'eau on utilise en moyenne? À peu près. 20 litres? Par personne, par jour et par personne, pardon. 30 litres ? Alors 30 litres, ouais, c'est la quantité d'eau par jour et par personne pour les toilettes. Une chasse d'eau, c'est à peu près 10 litres. Donc si on va 3 fois aux toilettes, ça fait 30 litres. Ok. Une douche de 5 minutes. 70 litres à peu près, 70-80 litres. L'évier dans la journée, ça va être à peu près une dizaine de litres. Et en gros, la machine à laver, bon alors ça fonctionne pas tous les jours, mais ça représente à peu près 40 litres d'eau par jour et par personne. Ce qui fait qu'on est à peu près à 150 litres d'eau par jour et par personne. C'est la moyenne européenne. Bon, dans le monde, ok, la moyenne sur le continent africain, 20 litres, la moyenne asiatique, 200 litres, et la moyenne chez les Américains, plutôt 300 litres. Désolé pour les clichés. Ok. Alors, souvent, on nous a appris à la maison, le plus important pour protéger l'eau, c'est fermer le robinet quand on se brosse les dents, c'est pas prendre de bain, faut prendre des douches. Ok, c'est vrai, il faut le faire, mais c'est pas le plus important. On verra après pourquoi c'est pas le plus important. Aujourd'hui, à la maison, le plus important, c'est pas l'eau qu'on utilise, mais c'est ce qui ressort de nos maisons. Il y a beaucoup de... Alors, des médicaments, certes, on peut se soigner, des perturbateurs hormonaux, des peintures, des solvants, des détergents. Et en fait, il y a énormément de produits chimiques qui ressortent de nos maisons. Et du coup, bah, ils vont se retrouver où ? À la station d'épuration. Ils vont pas être traités, ils vont finir soit dans les rivières, soit dans la mer, ou soit dans les boues pour qui va retourner pour faire de l'agriculture. Donc en gros, tous les jours, on a besoin de... Alors la plupart de ces produits chimiques viennent de nos cosmétiques et de nos produits d'entretien. Tout ce qu'on utilise tous les jours à la maison. Alors en gros, voilà, on utilise une dizaine de cosmétiques et de produits d'entretien par jour et par personne. Chacun d'entre eux contient des ingrédients chimiques. En gros, c'est une trentaine de substances chimiques à chaque fois. Ce qui fait qu'un Européen adulte porte plus de 400 substances chimiques par jour sur sa peau. Et bien sûr, notre peau, bah, si je mets de la crème dessus, d'un moment la crème elle disparaît, elle rentre dans mon corps. Donc en fait 60% des cosmétiques vont rentrer dans mon corps, et les 40% restants, ils repartent dans le cycle de l'eau. Donc le premier message, si on veut protéger l'eau et notre santé, en tout cas à la maison, ça va être de privilégier des produits naturels. Soit des choses qui sont écolabellisées, soit des choses que vous fabriquez vous-même. Quand on les fabrique nous-mêmes, on va pas se mettre chimiste, on va pas mettre les lunettes, la blouse. On va mettre un petit peu de bicarbonate, un petit peu de vinaigre blanc. On va mélanger 2-3 choses très très simples. Et ça, bah, ça fonctionne très très bien pour nettoyer la maison, pour faire nos produits de beauté. Et puis aussi, ça n'a pas d'impact ni sur notre santé, ni sur l'environnement. Ok ? Donc nous, on n'a pas de problème à aller dire aux enfants en classe « Vaut mieux prendre un bain avec des produits naturels qu'une douche avec des produits chimiques. » Ok ? Parce que l'eau ne fait que circuler. Le problème, c'est que si elle circule avec des produits chimiques, ces produits chimiques, ensuite, ils peuvent revenir, finir dans nos assiettes et revenir encore dans notre corps. Bon, petit jeu, on va essayer de passer. Ok. Les recettes, vous avez la famille Zéro Déchet qui a plein de recettes, on va en sortir aussi dans pas longtemps. Sinon sur internet, il y a tellement de tutoriels, de recettes à faire à la maison. On peut tout faire, ça demande du temps. Ça demande pas beaucoup d'argent, mais ça demande du temps. Voilà, on passe à la partie donc sûrement qui vous intéressait le plus. C'est l'eau virtuelle, l'eau invisible, l'eau indirecte, celle qu'on voit pas. Alors en gros, notre consommation d'eau, c'est comme un iceberg. Il y a la partie visible et il y a la partie invisible. La partie visible, c'est celle dont on vient de parler, c'est l'eau de la maison. L'eau de la douche, les toilettes, etc. 150 litres d'eau par jour et par personne. Et en gros, une quinzaine de grammes de pollution rejetée qui vont filer directement soit dans la rivière, soit dans la mer, soit dans notre corps. Donc le premier geste, on a dit, privilégier des produits naturels. Maintenant, il y a tout le reste, la partie invisible de l'iceberg. Ça, cette eau... C'est l'eau qui sert à fabriquer toute notre alimentation, tous nos objets, nos ordinateurs, nos voitures, nos vêtements. Ça, c'est l'eau indirecte, l'eau invisible, l'eau virtuelle. Ça représente 95% de notre consommation d'eau et c'est 4000 litres d'eau par jour et par personne. Et une fois de plus, il y a des pollutions qui sont associées. C'est toujours pareil, s'il n'y avait pas ces pollutions, bon, ça, certes, le chiffre reste quand même énorme, mais le problème, c'est que cette eau se charge de pollution. Donc voilà, c'est l'eau qu'on voit pas et qui est utilisée du début à la fin dans tout le cycle de vie de nos objets et de notre nourriture. Donc nous, on a un grand message dans l'association, c'est agir à la source. essayer de mettre en avant en fait les plus gros leviers. Tout à l'heure on a parlé voilà de l'eau à la maison. C'est pas un gros levier pour protéger l'eau. C'est un petit levier. Ça c'est un gros levier. Donc l'eau virtuelle en gros voilà ça correspond un petit peu à ça. Donc bah, pour faire que ça soit notre nourriture ou nos objets, on va avoir besoin de matières premières, de faire de l'agriculture, qui va consommer de l'eau et rejeter des pollutions. Ensuite ça va passer par une étape de production, on va utiliser de l'eau et consommer et rejeter de la pollution. On va transporter, distribuer, utiliser, recycler, voilà. Chaque étape consomme de l'eau, rejette de la pollution. Sur les 4000 litres d'eau, en gros il y en a 1000 qui sont liés à nos objets et 3000 qui sont liés à notre alimentation. Donc c'est quoi le plus gros impact sur l'eau ? Notre alimentation. On commence à venir au sujet. Bon, rapidement, les objets, donc 1000 litres d'eau par jour et par personne. Un jean, 11 000 litres d'eau, plus de 230 grammes de pollution. Un ordinateur, 35 000 litres d'eau, 420 grammes de pollution. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On arrête de s'habiller, on arrête d'acheter des ordinateurs ? On en consomme moins, voilà. On en consomme moins, ou alors ce qu'on consomme ? Ben, alors, soit on essaye de choisir de la qualité, quelque chose qui va durer plus longtemps. En fait, c'est surtout ça. On essaye d'augmenter la durée de vie de nos objets. Plus on les garde longtemps, plus on économise de l'eau. Mon ordinateur, si je le garde 10 ans, bah, ça va faire 35 000 litres d'eau pendant 10 ans. Ça va. Maintenant, garder un ordinateur 10 ans, c'est pas facile. Mon jean, s'il est abîmé, je le répare. S'il est troué en bas, je le coupe, j'en fais un short. Voilà, ça c'est toutes les notions, toutes les idées qu'on essaye de faire passer aux enfants. C'est d'augmenter la durée de vie de nos objets. Ces objets sont précieux, ils ont une durée de vie, c'est bien sûr aller en l'encontre de toute la consommation de masse. Donc le jean, son cycle de vie, c'est simple, hein, voilà, c'est du coton qui va pousser principalement en Inde ou en Afrique. Si on reprend la carte du stress hydrique, c'était des régions où c'était plutôt en rouge. Donc les gens là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'eau et le peu d'eau qu'ils ont, ils l'utilisent pour faire pousser du coton. Ensuite, on va rajouter des teintures. Alors oui, certes, on a des gros problèmes de micropolluants à la sortie de nos stations d'épuration, mais là-bas, il n'y a pas de station d'épuration, hein, ça part directement dans l'eau. Tout ça, ensuite, ça va être transporté, et nous, dans des énormes cargos, qui consomment énormément d'eau, qui rejettent énormément de pollution. Il y a un chiffre qui est dingue, hein, c'est les 20 plus gros bateaux de la planète polluent autant que pratiquement toutes les voitures de la planète. Et en permanence, c'est 60 000 énormes cargos qui sont sur nos océans. Donc voilà. Et nous, à la fin, on achète des jeans troués parce que c'est à la mode. Ok, l'ordinateur, c'est pareil. L'ordinateur, c'est des terres rares, c'est des métaux rares. Dans un ordinateur, un téléphone, il y a de l'or, il y a plein de métaux précieux qu'il faut aller chercher aux quatre coins de la planète. Comment ensuite aller assembler, et puis tout ça, voilà. Ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est au nord de la Chine, à la frontière avec la Mongolie, le lac Baotou, c'est un des lacs les plus pollués du monde. Il y a les taux de cancer qui sont plus élevés que la normale, et voilà. Et tout ça, dès qu'il y a un nouvel ordinateur, je jette le mien et je prends le nouveau. Voilà, donc nous, on essaie d'expliquer ça aux enfants. Quand on a un ordinateur, c'est précieux, on essaie d'y faire soin. Alors, c'est d'en prendre soin, certes, tout ça, je l'ai fait avec un ordinateur. Maintenant, mon ordinateur, il a 7 ans et j'essaie de le faire tenir au moins jusqu'à 10 ans. C'est pas facile, mais je l'amène tous les ans, tous les étés, je laisse pendant une semaine au réparateur. J'essaie de me faire sur les dernières mises à jour. Enfin, non, pas trop, parce que les dernières mises à jour, ça plante un peu, mais bon, voilà. Ok, et donc ça c'était pour la partie objet. La partie objet, on va la développer un petit peu plus l'année prochaine, l'année qui est en cours. Donc ça c'est nos outils pédagogiques, ça celui que vous êtes en train de voir, c'est une transition entre 2018-2019. Mais voilà, ça voilà, dans la partie 2018-2019, on rajoutera une partie un petit peu plus en détail sur les objets. On va parler d'économie circulaire, de low-tech, je sais pas si vous connaissez les low-tech. On travaille pas mal avec le low-tech lab qui est en Bretagne. C'est l'inverse en gros du high-tech, pour faire très très simple, mais c'est bien plus que ça. Y a plein de tutos, je vous invite à aller voir Low-Tech Lab, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire très simplement avec des objets du quotidien. Low-Tech, inverse de high-tech. Je sais pas si j'ai un stylo pour noter. Ok, donc l'alimentation. Alors l'alimentation, même principe, hein, le cycle de vie de tout ce qu'on mange nécessite de l'eau et rejette des pollutions. En gros, pour fabriquer un kilo de tomates, il va falloir 55 litres d'eau et à peu près 3 grammes de pollution. 1 kg de céréales, 1300 litres d'eau et plus de 20 grammes de pollution. Le yaourt, 2000 litres d'eau. Ok, on monte. Et le champion des champions, c'est le kilo de viande de bœuf. Pour 1 kg de viande de bœuf, il va falloir plus de 15 000 litres d'eau et 350 grammes de pollution. Alors pourquoi il faut de l'eau pour faire un bœuf? Un kilo de viande de bœuf. Alors il y a l'eau qu'il va boire durant toute sa vie. Il y a l'eau qu'il va manger durant toute sa vie. Qu'est-ce que ça mange un bœuf? Principalement des céréales qui viennent des quatre coins de la planète, notamment d'Amérique du Sud où on rase la forêt amazonienne pour faire pousser du soja et qui va servir à nourrir des bœufs qui vivent en France. Donc voilà, un kilo de vieux. Alors on a fait la distinction cette année, c'est trois niveaux. Il y a le bœuf monde. Le bœuf monde, c'est le bœuf qui est élevé en France et qui va être nourri par exemple avec des céréales qui viennent du Brésil, qui vont utiliser énormément de transport, qui vont rejeter énormément de pollution. Donc ça, c'est le modèle le pire qui existe. Ensuite, il y a le bœuf France. C'est le bœuf qui est élevé en France, avec, toujours avec des céréales qui va être nourri en France. Bon, mais là, c'est déjà deux fois moins. Et il y a le bœuf local, AOP, ou juste le bœuf qui est élevé dans nos montagnes, qui est un broutard, qui se nourrit essentiellement d'herbe. Bah, lui, c'est plus que 3000 litres d'eau. Donc, dans le message qu'on va porter aux enfants, c'est manger moins de viande. Manger beaucoup moins de viande, mais privilégier vraiment la qualité. Ok, donc voilà, cycle de vie du bœuf, hein, pour regarder un petit peu. Bah, on se retrouve avec énormément d'eau qui va être utilisée pour faire pousser, bah, pour faire fonctionner les machines qui servent à déforester, qui vont ensuite servir à faire pousser le soja. Voilà. Tout ça, ça va servir à nourrir des bœufs qui sont entassés les uns à côté des autres. Du coup, comme ils sont entassés à côté les uns à côté des autres, bah, on leur donne plein d'antibiotiques pour pas qu'ils tombent malades. Du coup, ça finit avec de la viande de très très mauvaise qualité, mais qui est pas chère du tout. Donc on essaie d'expliquer aux enfants bah, que tout a un prix. Si vous prenez ça qui coûte pas cher, ok, à un instant T dans votre portefeuille, ça coûte pas cher. Maintenant, ça a un réel coût environnemental et en plus, ça a un coût sur notre santé. Donc, mangez moins de viande, mangez de la qualité. Voilà, ce qui nous amène un petit peu à la dernière partie et surtout, voilà, ce qui nous intéresse un petit peu pour la fin, on va pouvoir un peu échanger, c'est l'eau et l'alimentation. Notre plus gros impact sur l'eau, c'est notre alimentation. Et la première des choses, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, gaspillage alimentaire, ça représente 1000 litres d'eau par jour et par personne. En gros, un tiers de l'alimentation fabriquée est gaspillée ou perdue. Donc, bah, le premier message qu'on dit aux enfants aussi, c'est entre prendre un bain, prendre une douche ou finir votre assiette, c'est quoi le plus important ? Voilà. Le gaspillage alimentaire, en gros, il y en a 60% qui est fait dans les foyers. C'est un chiffre de l'ONU. 60% du gaspillage alimentaire fait dans les foyers. Le reste, c'est fait en aval. C'est voilà, tout ce qui va être production, etc. Ben, en réduisant le gaspillage alimentaire, on va réduire énormément de la pollution de l'eau et tout ça. Et puis le gaspillage alimentaire, ça coûte de l'argent, c'est un réel coût. Donc nous, avec l'association, on fait plein de projets, c'est Marion Tonnet qui était juste là, qui était au stand aussi avec nous. On fait plein de projets avec le lycée hôtelier de Biarritz, le lycée hôtelier de Cabreton, de Bordeaux. Voilà, on développe de plus en plus des choses comme des disco soupes. Je sais pas si ceux qui étaient au stand là, vous avez pu goûter un petit peu les soupes. Voilà, on a fait plein de choses comme ça. On travaille aussi maintenant avec les maisons de retraite, un peu plus pour essayer de travailler vraiment sur le gaspillage alimentaire. En tout cas, il y a plein de projets qui se montrent sur ce gaspillage alimentaire. Et ensuite, ben, on arrive au modèle agricole. Alors en gros, qu'est-ce qu'on gaspille ? Ben, c'est des choses de mauvaise qualité, c'est des choses qui coûtent pas cher. C'est des choses où les gens ne font pas attention. Et généralement, ces choses-là, elles viennent du modèle intensif. Donc ce modèle-là, ben, sort un petit peu de l'après-guerre. Hein. Je l'ai entendu tout à l'heure aussi, voilà, il disait, oui, effectivement, tout ce qui est pesticides, etc., ben, c'est les anciens marchands, c'est ceux qui faisaient les bombes, etc. En gros, à la fin de la guerre, division, il y a ceux qui faisaient les tanks, les chars, etc., et ben, ils ont fait des tracteurs. Et ceux qui faisaient les pesticides, enfin les bombes, etc., c'est parti sur les pesticides. Donc du coup, bah, ce modèle, on nous a essayé de nous faire croire que c'est celui qui allait nourrir la planète. En fait, c'est juste celui qui est en train de... qui a posé énormément de problèmes, en tout cas, depuis 60 ans. Donc ce modèle, c'est vraiment ce qu'il faut éviter au maximum. Ensuite, intermédiaire, on va avoir ce qu'on appelle le modèle raisonné. La FNSEA parle souvent d'agriculture raisonnée. Alors c'est un peu mieux. C'est généralement des grands champs. Dans ce modèle raisonné, on intègre le bio-intensif, par exemple. Le bio-industriel. Donc c'est un modèle qui est un petit peu mieux. Okay, alors c'est pas les mêmes pesticides, ils sont pas différents, ceux-là ils sont acceptés. C'est un petit peu mieux, mais généralement on favorise pas forcément la biodiversité, etc. Et enfin, il y a le dernier modèle, c'est celui qu'on va appeler le modèle paysan, le modèle responsable. Tout ce qui va être agroécologie, permaculture, etc. Voilà, tout ça... D'ailleurs, voilà, on vient de finir un jeu, donc c'est très très récent, c'est ce que je vous ai mis là, avec Eskola Eriko Laborantza Gambara, la Chambre d'Agriculture du Pays Basque, pour essayer de sensibiliser les enfants à ces différents modèles et un petit peu comprendre qu'au quotidien, donc il y a les différents moments de la journée, comment on peut agir avec des questions, avec des aliments, etc. Comment on peut agir pour que notre paysage il ressemble plutôt à ça, mais pour que notre santé aussi s'améliore. En gros, si on va plutôt par là, les paysages sont un petit peu plus jolis et notre santé, généralement, ça va de pair. Donc voilà, trois modèles. Celui en face, c'est celui le plus responsable. Alors oui, c'est aussi peut-être celui qui coûte le plus cher. C'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, ce modèle-là, il coûte pas cher, mais il a un gros coût environnemental. Mais en plus, on gaspille. Alors toutes les dernières études montrent qu'en gros, si on réduit notre consommation de viande qui coûte de l'argent, si on arrête de gaspiller notre nourriture, on peut réussir à se tourner vers ce modèle-là et à réussir à être à équilibre. Ok ? À peu près. Voilà. Alors, dans les solutions qu'on propose aux enfants, ça va être de... Je pense qu'il y a... Voilà. Bien sûr, se tourner vers l'alimentation bio. Hein. Manger bio, c'est meilleur pour notre santé, meilleur pour l'environnement. Mais comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui va être bio-industriel. C'est déjà un pas en avant, mais on peut encore faire mieux. Se tourner vers des modèles encore plus... tout ce qui va être les réseaux d'AMAP, la ruche qui dit oui, plein de choses comme ça. Et manger local, manger de saison, c'est aussi réduire énormément les transports. Et donc beaucoup de consommation d'eau, beaucoup de pollution évitée. Et puis enfin, ce que je vous disais un petit peu, tout ce qui va être modèle d'agroécologie, permaculture, ça c'est des choses qu'on essaie vraiment de mettre en avant. Parce que l'avenir de la planète se joue un petit peu là. Hein. C'est notre alimentation, le plus gros impact sur l'eau et sur la planète. Donc. En se tournant vers des parties beaucoup plus responsables, on va réussir à... Aujourd'hui, ça, c'est des modèles qui nourrissent la planète, vraiment. La majeure partie des humains s'auto-nourrissent avec leurs propres légumes. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, en tout cas, si on veut réussir à sauver tout ça. À éviter le changement climatique, éviter les pollutions, etc. Alors, on termine avec les champions. Donc, ce que je ne voulais pas dire, on a une centaine d'ambassadeurs. Donc nous, ça, ce qu'on a fait là, je l'ai fait en très rapide, mais on le fait aussi avec les enfants. Et les enfants, à la fin, une fois qu'on a terminé, ils ont un petit diplôme. Et au dos de ce diplôme, il y a plein de petits éco-gestes. Donc les enfants s'engagent à faire des éco-gestes, que ce soit sur les cosmétiques, sur l'alimentation, sur les objets. Et une fois qu'on a fait ça, on va revoir les enfants une troisième fois. Donc on les voit une première fois en classe, on les revoit une deuxième fois où on fait les jeux, etc. Et on va les voir une troisième fois... dans ce qu'on appelle l'Odyssée des juniors. Donc l'Odyssée des juniors, c'est une journée où tous les enfants qu'on a vus, toutes les classes qu'on a vues viennent, participent à plein d'ateliers avec plein d'associations. Alors on le fait à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, on le fait en Bretagne, on le fait dans les Alpes. Tout le monde participe à ça et entre midi et deux, on fait venir nos champions qui viennent pour signer les éco-gestes des enfants. Donc en ayant vu les enfants trois fois, une fois en classe, une fois avec les jeux et une fois avec les champions, généralement on arrive à leur mettre une petite graine dans la tête. Et après, les enfants, ça va être des chevaux de Troie qui vont retourner dans les familles et essayer de faire passer nos messages. Donc on a un chiffre, on a travaillé un petit peu avec une anthropologue. Un enfant, c'est à peu près entre 7 et 10 personnes touchées qui peuvent être sensibilisées par cet enfant. Donc voilà, on essaie vraiment de jouer sur ça. Bon, les champions, rapidement, Antoine Delpero, champion de longboard, Ophélie David, choisir des cosmétiques naturels, les fabriquer soi-même. Fabrice Janet, Stéphanie Barnèche, c'est se tourner vers des réparateurs, plutôt que de racheter du neuf, réparer, ou faire passer par un artisan local pour réparer. Stéphanie Barnèche, c'est plutôt choisir des marques qui s'engagent dans le développement durable. Et enfin, pour tout ce qui va être alimentation, arrêter de gaspiller la nourriture, se tourner plutôt vers une alimentation bio, locale, très responsable, et pourquoi pas même les faire soi-même, ce serait très bien. Voilà, en gros. Merci beaucoup. En gros, ce que j'avais à vous dire. Je sais pas comment on est au niveau du timing, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez regarder, ça c'est le jeu qu'on a fait avec Eskola Eriko Laborantza Gambara. Un petit peu plus en détail, donc on a une petite roue. Les enfants tournent la roue, ils tombent sur un moment de la journée, on a le goûter, le petit déjeuner, l'apéritif. Et à tous ces moments de la journée, il y a des questions qui sont associées, qui permettent de répondre et d'améliorer en fait finalement le paysage et notre santé. Donc c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est pour ça que c'est encore en phase de test, un petit peu expérimental. Mais on essaiera de faire ça un petit peu plus gros et un petit peu plus joli dans les prochains mois, notamment pour le Brahma. Voilà, si vous avez des questions. Si vous avez des questions sur l'eau virtuelle ou si je suis allé un petit peu vite sur d'autres choses, allez-y, n'hésitez pas.
Hein. Entre consommer l'eau du robinet et acheter de l'eau, forcément il y a du recyclage après l'eau plastique, est-ce que vous conseillez
Nous on préconise l'eau du robinet. Oui, c'est... Alors, il faut savoir que l'eau, on a parlé un petit peu de l'eau dans le corps, hein. L'eau du robinet elle est équilibrée en minéraux. Donc elle est à pH neutre, équilibrée en minéraux. Elle est faite ici localement sur la Nive. Il y a plein d'actions qui sont faites au niveau du bassin versant pour privilégier une agriculture plutôt durable sur le bassin versant. Bon voilà, c'est... oui il y a du chlore, oui il peut y avoir quelques résidus, mais vaut mieux privilégier une alimentation, enfin une eau qui vient d'ici, qui est équilibrée en minéraux, que de l'eau en bouteille où il a fallu de l'eau pour fabriquer la bouteille. Il a fallu beaucoup de plastique, enfin il y a beaucoup de plastique en tout cas pour le transport. Et on ne sait pas non plus combien de temps l'eau dans la bouteille, ça fait... on ne sait pas depuis combien de temps l'eau est dans la bouteille. Ce qui fait que l'eau elle peut avoir passé du chaud, du froid. Et ça, on sait qu'il y a du plastique qui transfère à l'intérieur de la bouteille. Donc nous, voilà, on va déconseiller l'eau en bouteille et on privilégie plutôt l'eau du robinet.
Et est-ce qu'il vaut mieux justement mettre des filtres pour
les filtres, il y a...
Au niveau du robinet.
Filtre, il y a tout. C'est assez délicat comme sujet. Il y a vraiment de tout, quoi, dans les filtres. Il y en a qui sont efficaces, il y en a qui ne sont pas efficaces. Généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir une carafe en verre, faire couler l'eau, attendre 5-6 minutes, tourner un petit peu, voilà, des choses comme ça. C'est presque un peu un rituel, quoi. C'est comprendre que l'eau, c'est quelque chose presque de sacré. La prendre, la garder un petit peu, attendre que le chlore s'évapore. Le chlore, c'est quelque chose de très volatile. Ça reste pas dans l'eau. On attend 5-10 minutes. On la met au soleil. Des fois, il y en a qui disent on la met au soleil, ça la permet de la rééquilibrer. Bon, voilà, il y a plein de petits rituels. Mais en tout cas, moi, je comprends que c'est un sujet très, très délicat. Nous-mêmes, on est un petit peu vraiment confrontés à ça. Mais je privilégie quand même l'eau du robinet. Filtre ou pas filtre, moi, j'ai pas de filtre chez moi. Voilà, après, il y a plein de des machines qui font l'eau d'orage, l'eau Kangen, etc. Voilà, c'est pas... Je suis pas non plus un gros spécialiste dans ce domaine, mais l'eau du robinet, ça me va très bien. Ouais. Alors, c'est quoi être flexitarien? Très bien, je l'ai pas dit, du coup. C'est vrai que Renaud directeur, hein, qui n'a pas pu venir, comptait un petit peu aborder ça. C'est un petit peu en lien avec ça, c'est comprendre que flexitarien, c'est manger de la viande, mais en manger beaucoup moins. Donc on n'est pratiquement pas végétarien aussi, il y a des végétariens dans l'assaut, etc. Mais on n'est pas tous végétariens et on est plutôt flexitarien où on mange de la viande très rarement. Je sais pas, une fois par mois, une fois toutes les 2-3 semaines, voilà, on mange un petit peu de viande. Mais quand on mange de la viande, on essaie vraiment de savoir d'où elle vient, qu'elle soit locale, qu'elle soit produite ici. Parce que tout ce qui va être... voilà, effectivement, hein, si tout le monde était végétarien, ça serait... peut-être que ça irait beaucoup mieux. Maintenant, les paysans, tout ce qui est pastoralisme, le rôle des prairies, etc., pour la biodiversité, c'est quelque chose de vraiment énorme. Le travail des paysans, en tout cas, valoriser cette agriculture paysanne, qui a un réel impact, en tout cas, sur notre paysage ici, notre Pays Basque, on peut vraiment le voir. C'est lié au paysage, c'est lié aux paysans et à l'élevage d'animaux. Alors quand c'est fait de façon raisonnée, quand c'est fait de façon responsable, nous on est, voilà. Après bien sûr il y a tout ce qui est question animale, cause animale, ça c'est voilà. Je sais pas si j'ai répondu à peu près. Ouais. Donc flexitarien, voilà, c'est plutôt ce mode d'alimentation, on va se tourner vers... vers moins de viande, mais en tout cas plus de local, de bio et de... Voilà, de raisonner, mais beaucoup moins de viande quand même. Ouais. Pourquoi pas. D'évaporation en plus. Ouais. L'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, effectivement. Ah ben voilà, alors là actuellement on en est à 1 degré de réchauffement par rapport à... Voilà, il y a eu 1 degré de réchauffement. On essaie de se cantonner à 1,5 degré D'ailleurs, le rapport du GIEC sort demain, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Mais oui, si on passe à 2 degrés, il y a plus d'évaporation. 7% d'évaporation, c'est pas non plus énorme, mais il y a de plus en plus d'eau. Donc c'est, effectivement, la machine risque de s'emballer.
Du coup, l'effet serre, ouais, voilà.
Ah, le, voilà.
La condensation, elle augmente pas. En fait, c'est ça, parce que la condensation, elle augmente pas de
paire. Ah oui, si, ça va augmenter de paire, c'est sûr.
Mais si la condensation augmente de
paire,
du coup, c'est l'effet serre. Il n'y a pas de monde. Ça, c'est...
En fait, l'atmosphère se charge d'eau. Donc il y a de la condensation, il y a des nuages, etc. Mais tout ça, ça augmente l'effet de serre. En gros. À peu près. Mais voilà, plus il y a d'eau dans l'atmosphère, plus il y a... Enfin voilà, il y a énormément de gaz. Mais effectivement, plus il y a d'eau, c'est aussi un des premiers gaz à effet de serre, sans le savoir. Hein. Il est naturel, mais il y a de plus en plus d'eau. Donc ça va accentuer effectivement les risques de changement climatique. Quoi. Ouais. Non. C'est bon, si on est bon, vous êtes libre, on peut discuter là un petit peu. J'ai quelques livrets. Alors j'ai le programme pédagogique, je l'ai pas parce qu'on l'a pas fini. J'ai quelques petits livrets si vous voulez en prendre. Ça c'est quelque chose qu'on avait sorti pour le Tour de France à la voile. Alors on retrouve un petit peu les schémas à l'intérieur, l'eau dans le corps, etc. Voilà, si vous voulez en prendre. J'ai des autocollants aussi qui doivent traîner. Et donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine on sera au Positive Action Festival. On fait une conférence sur l'arbre, peut-être moi encore, je sais pas. Non, normalement c'est Renaud, mais voilà, l'arbre c'est aussi une des réponses qu'on a pour tout ce changement climatique, toutes ces pollutions, et un petit peu montrer un peu tout ce que nous apprennent les arbres.
Oui, salut.
Ah, hola tous les coups à Anglette. Voilà, positivement, j'ai des flyers si vous voulez.